Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous présenter cette nouvelle édition de La Route Inconnue, votre magazine bimensuel dédié à la poésie vivante. Vous retrouverez en fin d'émission les chroniques de nos amis poètes, Claude Verset, Cécile Guivarch et Patrick Jockel. Je vous rappelle que La Route Inconnue bénéficie du soutien de l'excellente revue des charges et du site Terraciel, tout aussi excellent. La preuve, eh bien, j'y ai pris de quoi vous faire une petite lecture à voix haute en seconde partie d'émission. Mon invité du jour s'appelle Patrice Maltaverne, il est éditeur à l'enseigne du Citron Gare, créateur de la revue de poésie Traction Brabant, mais aussi et surtout poète, avec une bibliographie déjà très étoffée. Patrice Maltaverne a publié chez Gros Texte, à La Porte, aux éditions du Manège du Cochon Seul, chez Vincent Rougier et dernièrement aux éditions du Contentieux, un livre intitulé « Double séparation ». Patrice, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai déjà posé la question à un autre revuiste de fond, au demeurant poète, Jacques Morin, alias Jacques Mau. Alors, je vous la repose à vous. Rien de plus chronovore qu'une revue, et si on y ajoute une activité d'éditeur, je me demande où trouvez-vous le temps d'écrire ?
C'est pas facile. J'essaye d'écrire un petit peu tous les jours, hein, voilà. C'est pas régulier, mais bon, disons que j'ai l'habitude de calculer un petit peu combien de temps ça me prend à peu près chaque jour. Hein. Il y a bien facilement 2 à 3 heures, en fait, hein, d'activité autour de l'écriture, quoi. Ouais. Ça peut être Traction Brabant, le Citron Gare ou mon écriture personnelle. Ouais. Donc c'est le matin et le soir.
Et le soir. Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, parce que votre, on reparlera tout à l'heure de votre écriture, mais elle est très élaborée. Donc, vous travaillez beaucoup sur les textes. Du moins, je l'imagine.
Oui et non. Hein, enfin, je ne veux pas dire. Après, ce serait peut-être un petit peu présomptueux, mais je veux dire, en fait, j'écris quand même assez vite. Hein. Ouais. J'ai l'habitude d'écrire. Donc, j'ai commencé il y a longtemps. Bon, vers l'âge de 17-18 ans. Hein. Ouais. Donc, je pense avoir acquis... J'ai beaucoup écrit d'abord dans mon coin. Hein. Bon, ouais. Comme je suppose que la plupart des personnes, c'est la même chose. Donc, je trouve que aujourd'hui j'ai quand même plus l'habitude d'écrire. Donc, en fait, j'écris assez vite les premiers jets. Mais par contre, après, ce qui me prend un peu plus de temps, c'est les corrections. Mais c'est des corrections, je veux dire, peut-être... ça équivaut à 20% du texte du premier jet, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui me prend un petit peu de temps, mais voilà, un petit peu. Voilà.
Petite question couleur sépia pour continuer. Quel enfant avez-vous été ? Est-ce que vous dévoriez les livres ou est-ce que vous couriez plutôt les rues avec d'autres garnements de votre âge ?
J'étais plutôt l'enfant qui lisait quand même, hein. Ouais, qui sortait pas beaucoup, hein, en parlant d'enfance, hein, très précisément. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, j'aimais pas trop lire, mais j'étais entouré. Mon père est un très grand lecteur, et donc il y avait beaucoup de livres à la maison. Et donc, avant de lire les livres, je les touchais, je les regardais, je les sentais. Et puis, au début, j'aimais pas trop lire, mais quand même assez rapidement, hein, je me suis mis à lire pas mal, quoi.
Alors, vous lisiez quoi ? Vous lisiez Jules Verne, vous lisiez Alexandre Dumas, vous lisiez ces auteurs ?
Ah, je lisais le premier, Jules Verne. J'ai jamais lu Alexandre Dumas, mais je lisais Jules Verne, je lisais beaucoup, essentiellement au départ, Jack London et James Olivier Curwood. C'est les auteurs du Grand Nord.
Les auteurs du Grand Nord, oui.
Ouais, c'était les livres qu'il y avait autour de moi, qui étaient quand même plus ou moins destinés aussi à l'enfance ou l'adolescence, quoi. Les histoires de chiens, de trappeurs.
Et cette rencontre avec la poésie, alors quand et comment s'est-elle passée ?
C'est venu, là je peux le dire de manière assez précise, c'est venu vers l'âge de 16 ans, 16-17 ans, un peu entre les deux d'ailleurs. Ça a été assez brutal. Hein. Ah. En fait, j'aimais pas la poésie parce que je trouvais que c'est toujours la même histoire. Hein. On nous faisait réciter des poèmes à l'école et ça me barbait, quoi. Étant assez timide, ça m'embêtait de faire cet exercice-là devant tout le monde. Et donc, j'aimais pas la poésie. J'aimais plutôt le roman. Et donc, c'est un jour, c'est vers l'âge de 16 ans, hein, très précisément, j'ai lu Les Fleurs du Mal, parce que le livre était à la maison, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, bien sûr. Et bon, ça m'a plu, mais bon, sans plus, quoi. C'était bien, mais pour moi, c'était encore de la poésie uniquement, quoi. J'avais du mal. Et puis, 2 mois plus tard, j'ai lu Une saison en enfer de Rimbaud. Alors là, je suis rentré de plein pied dans la poésie. Ouais. Ça a vraiment été une révélation, hein, au sens fort du terme, de quoi m'empêcher de dormir, même, pendant quelques jours. Donc voilà, la poésie, d'un seul coup, ça m'a plu, là.
Ouais. Et vous avez démarré avec le Rimbaud le plus radical, finalement, hein. Et non pas avec les poésies complètes. La saison en enfer, c'est vraiment le côté radical de Rimbaud, non ?
Oui, ouais. C'est-à-dire que, pour moi, pas le plus radical, parce que après, j'ai plus évolué vers les illuminations ou vers les nouveaux vers, mais c'est vrai que c'est pas les poésies régulières du départ qui ont été pour moi la révélation, hein.
Ouais.
Ça a été Une saison en enfer, effectivement.
Ouais. Et c'est une écriture très moderne, déjà.
Oui, c'est-à-dire que moi, je pense que évidemment, c'était des les préoccupations étaient semblables, quoi. Je voyais quelqu'un qui aurait pu vivre en même temps que moi. Hein. Il y avait une identification qui se faisait. Et justement, l'expression étant moderne, c'était facile. Disons que je trouvais qu'il répondait un petit peu aux questions que je me posais, quoi.
Et de la lecture à l'écriture, il s'est écoulé beaucoup de temps.
Pas énormément, en fait. Ouais. J'écrivais déjà, hein. J'avais écrit quelques nouvelles. Et il s'est écoulé, très exactement, on va dire 6 mois à peu près. Et j'ai commencé à écrire de la poésie régulière, des sonnets. Et puis entre-temps, j'ai découvert aussi Mallarmé. Hein. Ouais. Donc, difficile à lire, hein, mais ça me surprenait totalement, quoi.
Ouais. Vous n'êtes pas allé aux poètes les plus faciles, hein ?
Non. Je sais pas, ça doit être peut-être dans ma nature. J'ai toujours préféré... Et d'ailleurs, chez Mallarmé, par exemple, ce que je préférais, c'était le coup de dé, hein, qui est quand même le plus simple. Hein, mais je l'avais tellement lu 2 fois, mais en fait, j'aimais bien ce qui me résistait. J'avais du mal à comprendre, donc plus ça va, ça, je voulais absolument essayer de cerner tout ça, quoi.
Je comprends mieux l'exigence de votre propre poésie, d'ailleurs, en vous écoutant.
C'est très net, hein, c'est très net. J'ai toujours préféré, par exemple, Rimbaud et Mallarmé à Verlaine. Ouais. Donc, j'aime bien Verlaine, mais c'est pas mon poète.
C'est pas cette petite musique qui vous a plu, voilà.
Ouais. Non, je pense que j'étais vraiment attiré par les images, les fulgurances aussi, la véhémence.
La véhémence.
C'est ça qui me. Je les voyais, quoi. Je voyais quand même des choses, quoi. Voilà.
J'ai lu plusieurs de vos livres, dont le Polder 134, coédité en 2007 par la Revue des Charges et les éditions Gros Texte, et je n'y ai décelé aucune véritable influence, comme si d'emblée vous aviez trouvé votre style. C'est quand même assez rare pour être noté. Vous m'avez parlé tout à l'heure de sonnet, mais rapidement, vous avez quand même découvert votre écriture. Dans ce que vous avez publié, en tout cas, on a l'impression que c'est du premier jet. Et c'est vous, tout de suite.
Je vous remercie. À vrai dire, j'en ai même pas l'impression. Enfin, je sais pas. Oui, c'est possible. En tout cas, ça a été très progressif, en fait, ouais. Hein, parce que... Quand j'ai commencé à écrire, donc c'était de la poésie vraiment régulière, hein, même 19e, hein, c'était vraiment influencé par Mallarmé, et puis beaucoup par Mallarmé. Et puis petit à petit, en l'espace de 2 ans, j'ai découvert les surréalistes. Alors là, ça a été une. Alors il n'y a pas un nom vraiment qui se dégage, hein, mais il y a aussi un poète exigeant aussi parmi les surréalistes qui m'a énormément impressionné, c'est Jean-Pierre Dupré, pas le plus connu. Et donc de fil en aiguille, je suis arrivé au 20e siècle. Et puis alors, Sans mariage, ça a été écrit en 2006, hein, donc ça faisait déjà 18 ans que j'écrivais quand même. Hein.
Vous avez beaucoup travaillé dans le secret, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, avant de montrer aux autres le fruit de votre travail.
Oui, quand même plusieurs années. Ouais.
Plusieurs années. Hein.
Ouais. Je me rappelle le premier poème que j'ai écrit en régulier, je l'ai montré à mon père, par exemple, tout de suite après. Là, il y avait quand même une compréhension familiale, mais j'étais loin de montrer tout ce que j'écrivais. Hein.
Ouais.
Et donc, j'ai commencé à publier après avoir écrit dans la Revue des Charges, hein, on va dire, à peu près. Hein, ça fait parmi les premières publications, 4-5 ans après avoir commencé d'écrire.
Ouais. Ce rapport de complicité avec votre père, c'était important pour vous ? C'est très rare d'avoir un père qui lit la poésie.
En fait, il ne lit pas vraiment de la poésie. C'était surtout les romans. Hein, mais il y avait quand même de la poésie à la maison.
Ouais.
Et puis, il y avait aussi des, enfin comment dire, de toute évidence, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime la littérature, hein, donc voilà. J'ai entendu parler assez vite, par exemple, de Céline, ouais. De Conrad, voilà, des écrivains, quoi, des vrais écrivains. Mais c'est vrai que moi, c'était ce qui m'intéressait le plus au départ, c'était le roman. Mais il y avait des poèmes aussi à la maison, ouais. Donc j'ai senti que cette écriture-là, bah, ça me convenait mieux. Je me sentais plus à l'aise pour écrire des poèmes, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la poésie, mais. Et oui, il y a quand même de la compréhension. Bon, après, il y a aussi un autre élément qui a quand même compté aussi. J'en profite pour le dire. C'est mon professeur de français de lycée, Pierre Bastide, que j'ai édité il y a deux ans.
Que vous avez édité. Oui.
Et qui m'a édité. Mais, c'est, bon, c'est pas, je sais pas comment dire. Il y a eu vraiment, quand j'étais en classe de première, c'est lui qui nous a fait, qui m'a fait découvrir Artaud, par exemple. Ah. Donc c'était, et puis bon, Camus, Kafka, bon, et ça a quand même été important aussi, hein, c'est arrivé un petit peu après, donc il m'a aussi encouragé à écrire, hein. Ouais. Je me rappelle d'un atelier d'écriture, de plusieurs ateliers d'écriture qu'on a fait, que j'ai fait sous son animation, sous sa direction, quoi. Voilà.
Alors, parlons de votre écriture. Je lirai tout à l'heure à nos auditeurs quelques-uns de vos poèmes. Cette écriture est exigeante, elle est tendue, elle ne se donne pas de prime abord, hein. Il faut vous lire lentement, voire vous relire avant de pénétrer dans votre univers. Est-ce que vous en avez conscience ?
Ah, complètement. Oui. Ouais. Oui, oui. Je sais que mon écriture n'est pas facile, hein. Et bon, avec les années, parce que au début, c'était vraiment quand j'ai commencé d'écrire au départ, c'était, faut pas dire que c'était illisible, mais il y avait certains textes qui l'étaient plus que d'autres. Ouais. Et donc, à force de pratiquer, mais c'est vrai que j'ai encore aujourd'hui, j'ai pas une écriture. Oui, j'en ai parfaitement conscience. C'est vrai que c'est une exigence.
Je rassure tout de suite nos auditeurs, vous n'êtes pas illisible du tout, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est une écriture exigeante qui demande au lecteur un effort. Alors, et d'ailleurs, oui. J'avais à l'esprit, en vous lisant, ces deux vers de Jane Guilvic, les mots ne se laissent pas faire et toute langue est étrangère.
Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a aussi, c'est vrai, vous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est important. J'ai peut-être pas réalisé trop. C'est vrai qu'il y a une exigence de ma part à laquelle je fais même pas attention. Quoi. J'aime pas. C'est vrai, c'est peut-être un petit peu là. C'est peut-être justement parce que j'aime m'alarmer. J'aime pas non plus tout ce qui s'offre comme ça de prime abord. Quoi. Ouais. J'aime bien qu'il y ait du mystère dans une écriture. Donc c'est toujours présent chez moi, ça.
La langue, hein, que vous utilisez est quand même celle du quotidien, mais vraiment le plus ordinaire. Mais c'est l'agencement des mots qui donne naissance à d'étranges fictions qui sont souvent angoissantes. Hein. Les paysages traversés, parce qu'on circule beaucoup dans vos poèmes, on circule en voiture, en train ou en métro, les paysages sont urbains, on y croise des êtres que guette la déshumanisation. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'intranquillité. C'est peut-être cette forme d'intranquillité qui caractérise notre époque et que vous avez su capter, non ?
Oui, sans doute, oui. C'est vrai que c'est... Je ne sais pas comment exprimer ça. Hein, c'est le reflet d'un vécu aussi. Hein, ouais. C'est vrai qu'en plus, moi, je viens quand même plutôt de la campagne, hein, au départ. Et donc, j'ai été amené, et maintenant, je vis en ville. Donc, je m'y suis adapté. Mais c'est vrai qu'il y a eu une adaptation nécessaire. Et donc j'ai vécu quelques années difficiles, notamment dans la région parisienne, où c'était un univers qui était dur. Et je m'y suis adapté, pas aussi par la dureté, il faut reconnaître. Hein. Donc c'est vrai.
C'est ce monde où nous vivons qui vous inspire, on va dire, et qui vous inspire justement peut-être une forme d'angoisse qui transpire dans l'écriture. Comment vous vivez ce monde d'aujourd'hui ?
C'est tout à fait ce que je ressens. Hein. Oui, c'est vrai que je ressens beaucoup d'angoisse. Hein. Après, c'est toujours à double sens aussi, hein, puisque justement, ça génère de la poésie aussi. Hein.
Oui, tout à fait.
Je suis pas non plus dans l'opposition, enfin blanc-noir, quoi. C'est-à-dire que pour moi, la campagne, c'est pas non plus quelque chose de facile, hein. C'est quelque chose de dur aussi. Hein. Donc c'est aussi ce que j'ai, peut-être qui m'a été transmis aussi. Hein. On a quand même tous plus ou moins du travail de la terre aussi, et donc tout ça pour moi c'est dur, hein. même la nature. Hein. Donc, mais c'est vrai, ça génère de l'angoisse. Bon, après, je sais pas, il y a aussi une attirance aussi, hein, l'aspect vitrine, l'aspect transparence,
ouais.
qui est présent aussi. Hein.
Et le déplacement, je le disais tout à l'heure, on circule vraiment beaucoup dans vos poèmes, on bouge beaucoup. C'est pas du tout une poésie contemplative, c'est une poésie de mouvement. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est tout simplement parce que moi aussi, je bouge beaucoup. Je suis quelqu'un qui a du mal à tenir en place. Et c'est vrai qu'en tant que lecteur, des fois, enfin pas toujours non plus, mais je trouve que des fois la poésie est trop statique.
Oui.
Et c'est sans doute pour ça aussi que quand j'ai lu Rimbaud, je m'y suis reconnu, quoi.
Ouais.
Parce que ça me parlait, parce que Rimbaud, ça arrête pas de bouger, hein.
Ouais.
Ça va très vite, hein. Et c'est justement, il y a des retournements très 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 rapides. Et c'est ça que j'ai admiré, hein. Voilà. Donc je pense que oui, il y a du vécu aussi là-dedans, hein.
Ouais. Alors, l'histoire, pour ne pas dire la guerre, hein, a refait son apparition en Europe, en particulier en France ces derniers mois. Est-ce que ça change quelque chose pour le poète que vous êtes ? Est-ce qu'il y a un avant et un après Charlie, par exemple, dans votre poésie ou dans votre manière d'appréhender la langue et le poème ?
Je dirais presque non. Déjà, j'ai une grande méfiance envers l'engagement. Alors, c'est vrai que j'ai pas écrit directement sur ces événements-là. C'est presque comme si c'était la validation de ce que, malheureusement, je ressentais déjà avant, quoi. Vous voyez ? Donc, en fait, ça n'a pas changé grand-chose en moi. C'est-à-dire que, effectivement, comme vous le disiez, hein, comme tous ces endroits traversés sont déjà générateurs d'angoisse, ça n'a finalement fait que, à mes yeux, hein,
ouais,
ça n'a finalement fait que confirmer ce que je ressentais déjà, quoi.
Ouais. Mais en tout cas, vous estimez que la poésie doit prendre en compte aussi l'époque dans laquelle elle s'écrit. Je recevais récemment un de vos auteurs, Samuel Steiner, qui expliquait que, et c'est un tout jeune auteur, à quel point il lui semblait important d'inscrire la poésie dans le cadre d'une époque.
Ah oui, je suis totalement d'accord, oui, là, oui. C'est ce que je défends aussi, hein. Quand je parle méfiance envers l'engagement, c'est méfiance envers un engagement précis, quoi, sur une cause vraiment, sur un événement précis, quoi. Mais c'est-à-dire que pour moi, une poésie qui ne reflète pas son époque, ça m'intéresse peu, quoi. Et c'est comme ça que je vois les choses.
Patrice Maldaverne, un grand merci à vous. On va laisser passer un peu de musique avant d'écouter vos poèmes. Est-ce qu'il y a d'autres livres sur le feu ?
Alors oui. Alors après, c'est pas des projets encore vraiment vraiment arrêtés, hein. Mais bon, je peux tout de même les citer. Il y a un projet d'édition qui devrait voir le jour aux éditions Henri en 2017, et peut-être aussi quelque chose aux éditions Gros Texte en 2017.
En 2017.
Et tout ça reste à confirmer, quoi.
Voilà. Et l'activité d'éditeur qui se poursuit avec les éditions du Citron Gare. Hein. Voilà.
Voilà, et Traction Brabant.
Et Traction Brabant, bien sûr, la revue. Qui a quel âge maintenant ? Parce que ça fait bien longtemps qu'on en entend parler.
Elle commence à avoir de l'âge, oui. En fait, le premier numéro est sorti en janvier 2004. Alors
2004,
bon, évidemment, elle a pris... Au début, c'était tout modeste publication, vraiment très très modeste, toujours d'ailleurs. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup plus de gens qui circulent autour, quoi.
Ouais.
Donc bientôt 13 ans.
13 ans. Patrice, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Patrice Maldaverne, merci pour la musique, publiée aux éditions Gros Texte. Toujours le même élan. Cela nous amuse presque d'être emportés au fond de cet entonnoir. Le train et sa vitesse vont toujours dans un seul sens. Il est impossible de les quitter avant qu'ils ne s'arrêtent ensemble. Quand bien même cela serait possible, les monstres cravatés s'indigneraient de cette bêtise campagnarde. En plus, les mauvaises herbes ne valent rien. Les orties ont levé trop vite, après la fuite des chantiers aux abords de la voie,
Paris se dresse autour de ses morts vivants. Les têtes frôlent un échangeur, les pieds également. Le jour nous rappelle que la vérité blanchit lorsque la mort caille. À cette apparition succède notre chute linéaire au fond de la ville, si vaste qu'elle devient un champ de bataille divisé en plusieurs mondes. Nous relevons notre âme qui glisse le long des vitres afin d'oublier le choc des parapets. Pensez sur des trajectoires. À force de voir nos visages fixes se ressembler tous plus ou moins dans la poussière des minutes chômées, nous sautons sur les lignes de fuite qui s'entrecroisent jusqu'à plus soif. Ce spectacle ne s'arrêtera jamais. Les lignes décomposées dans le béton se suivent et ne se ressemblent pas. À un moment ou à un autre, elles aboutissent dans le mur de nos pensées malades, puis d'autres prennent le relais en montant vers le ciel jamais trop haut ou bien descendent au sol sans se substituer à lui. Au bout de quelques minutes, nous sommes émus par la vitesse du train qui glisse entre ces lignes de partage. Nous rêvons d'être divisés en autant de territoires impraticables. Cela nous permettrait de garder notre âme au sec pendant qu'une partie de notre corps déjà mort serait condamnée par le poids des machines. Malgré tout, nous gardons l'espoir d'être mis à l'écart du rouleau compresseur, de la banalité phénoménale. Assis, debout, couché. Je suis monté dans le métro et j'ai constaté que rien ne bougeait à l'intérieur. Les faces des gens étaient vraiment mortes. Pourtant, ils respireront encore pendant longtemps. Moi aussi, je me suis assis pour devenir une icône en pierre que tout le monde révère. C'est à peine si elle est blanchie par le hasard. Tous nos yeux nous regardent défiler depuis trop longtemps dans cette absence de paysage. Nous sommes plâtrés dans nos corps de fantômes modernes. La vie se sert de nous pour remplir son silence. Elle a bien raison. Nous la remercierions encore un peu si nous en avions la force. Bien que nous soyons debout, le spectacle est identique et continue en entier dans nos yeux éclatés par la surprise de ne pas exister. Nous n'avons pas la possibilité de marcher près de lui au ralenti. La vie se déplie à côté de notre panier de crabe sur une arête de métal ou dans nos orbites fixes de jetés du sort. Une chambre où vivre. Nous nous déployons dans des conduites intérieures brinque-ballantes. Nous sommes satisfaits de ne jamais sortir, car dehors nous sommes encore à l'intérieur. Partout des pickpockets circulent, la fleur au fusil avec des chausse-trappes pour les humains à écraser. Des pots de bananes sont en transit dans les poches d'un clochard. Nous disposons de toute cette vilaine chair en guise d'idéal. Pour atteindre la terre ferme, nous sautons la petite marche qui nous sert de piège supplémentaire. Au moins là où nous sommes, la vie ne viendra pas nous chercher. C'est une évidence. Nous ne repartons dans l'autre sens que lorsque le temps nous facilite la vie. Le reflux des voyageurs nous permet d'exister entre quatre murs, ressemblant de plus en plus à ceux d'une chambre d'hôtel presque potable. Pour mémoire, nous regardons l'ampoule radieuse qui nous éclaire d'un jour enfin immobile. Lettre à l'absence, publiée aux éditions La Porte. Le centre-ville s'apprête à être ce mirage où il faut repasser sans cesse devant la caméra. À des heures apprises par cœur, la foule obéit à l'automatisme de rectangles d'éclairage. Les paysages des ruelles sont rayés par les essuie-glaces que des yeux à demi ouverts remplacent en vitesse. Ces somnambules s'agitent sur des portées parallèles à celles de leurs semblables. Légèrement différentes, les perspectives s'évasent, puis aboutissent à une place presque intangible. Le temps qu'un brouillard de circonstances disperse à nouveau chacun vers son histoire valable, il n'y a pas d'autre légende au tableau de bord que celle d'un coucher de soleil progressif, et les silhouettes descendent dans leur pré de bitume, vers la résolution de conflits sans parole. Vues d'en haut, elles ont été mises en route de leur fourmilière par une clé d'appoint, et même les belles, avec leurs pommettes cerises, gardent cette clé dans le dos pour les avancer. Nous pouvons comprendre que leur réalité dépend des lumières déployées dans une artère cautérisée. Nous les voyons sortir d'un segment pour disparaître dans le couloir des bus à échappement de couleuvres. Il est presque l'heure de fermer les yeux, d'allumer ces lampes internes en même temps. Leurs filaments collent au compte que les devantures relatent à partir des traces de passage humain. Et cette bouillie de lumière plonge les passants sans les électrocuter dans la saumure impassible. La lumière laisse filer ces petits hommes avec juste la hauteur qui devient vertige. Les yeux fermés, c'est un avantage pour que les rubondés deviennent symboliques. La vie se réplique jusque dans ces échos qui brouillent les émissions de vie. Il n'y a pas de message en ces apparitions, pas le plus petit début d'une reconnaissance. Ton sourire inexplicable peut y être accroché, mais trop faible, il s'évanouit derrière les lampes. La recherche de ta présence oublie au hasard un signe derrière le feu rouge. Tes mots qui n'ont pas de suite s'envolent d'une carte postale punaisée du frigo. Demeure leur surface apparente, laissée à l'envers des problèmes sans solution. Ta voix trouve un écho qui la résorbe dans le clocher d'églises impotentes. Ce n'est pas dans la distance que la solitude emplit son coffre d'autres bénédictions ponctuelles. Les frontières s'effacent qui ne sont plus que béton, barrières de métal et transparence. Le fil de cette pelote n'a pas de fin pour qui accepte de s'asseoir dans un jardin d'enfants. Des traces de vie dans un sourire sombre, aussitôt effacées, ajoutent à la tristesse. Revoir le film de ta carcasse est comme un adieu plus triste que les replis quotidiens du corps. Il n'y a pas d'autre monde que ton rire, haut perché dans l'abrutissement des nuages. Passer cette limite, la neige qui picote vide les pavés brillants au ciel d'une église. De plus en plus massifs, les fourrés comme les murs doublent leurs ombres. Il ne fait pas bon mettre dehors du sang courant sur le parvis des enfants délaissés. Et c'est par cet interstice de blanc sali que tu t'es glissé avant la période de gel. Un ray de lumière anormale a insisté trop longtemps sous la porte de ta chambre. Double séparation, publiée aux éditions du Contentieux. La ville est plus silencieuse que d'habitude. Elle piétine depuis le Moyen-Âge, quand il n'y a plus de touristes et que les regards débordent des magasins. Aujourd'hui encore, le raz-de-marée des clients ne viendra pas prendre ses photos et payer les marchandises. La ville reste de glace. C'est presque une chance, ce commerce en mauvaise santé. Il faut aller au-delà des murailles du centre pour entendre les moteurs vrombir avec leurs chiffres d'affaires, de passage avec des bouts d'humains engloutis par un manque de lueur perverse. Je voudrais saisir une présence féminine dans la rue, mais des pas redoublent entre les miens. Sur le pavé, on dirait un défilé de mode en pointillé. En même temps, leur présence reste à la surface. Voir leur visage longtemps est impossible. Nous voilà pris dans un flux semblable à celui d'une rivière à deux voies. En vitesse, nous nous télescopons sans même nous souvenir d'une forme déjà disparue, comme si tous les corps se valaient en partance pour une destination qui ne les vaut peut-être pas. La fille est dérobée par le bus, rapte conventionnel. Son visage s'est effacé derrière les vitres, puis le corps a suivi. La station verticale ne lui donnait pas envie. À cet instant, son corps était une erreur de trop, dressé sur le marchepied de l'éternité. Ce regard parti, une forme invisible reste adossée à l'abribus. C'est à son unique absence que je dois parler. Ses habits noirs de bureau, ses yeux maquillés, en noir aussi, la couleur de ses collants, toujours noirs, tout comme sa jupe, ses bottes et son sac à main, parle d'histoires moroses, avec des lendemains qui n'existent qu'à peine. C'est peut-être moi le fantôme envoyé pour ta punition. Si avant il n'y a rien eu dans ta vie, plus tard se jouera ta mort. Il serait normal que nous allions dans le même sens, indistinctement vers la nuit, sans rien nous dire, ensemble soudés comme du métal de portière. Son visage est gâté par une mélancolie dont elle ne se rend pas compte. Isolé au milieu de la ville, il n'y a pas de plan assez précis pour le décrire. Cette absence de candeur devient une marque de pureté. Son visage est un épouvantail à enfance, pâle mais avec un maquillage qui semble déborder. Le corps qui est en dessous ne sait pas encore qu'il peut servir à forcer l'épaisseur des choses. La nuit, quand tous les chats sont gris, je vois plutôt des solitudes qui grouillent, parallèles en apparence à leur vitrine transparente, plusieurs incendies jamais allumés par des yeux brillants de fièvre et un trafic d'automobiles filant près des jambes nues. Ici, les dérapages sont compris comme des tentatives d'amour malheureux, et à la gare, il n'y a que les trains qui restent immobiles. Le sang ne va-t-il pas finir par sortir, comme l'unique vérité, la performance de l'alcool absorbé au centre du monde en sueur? J'ai surpris son regard amusé, très tôt descendu dans la rue pour une course à faire. Il faut croire que je ressemble à un personnage de ces bandes dessinées, ou bien ce matin-là s'est-elle échappée dans la brume d'un lit douillet à deux avec ses pensées. Le mystère de cette femme demeure intact dans ma tête. Quelques mois plus tard, un même sourire énigmatique de Joconde mariée passera sur un autre visage, levé de bon pied. Voilà, c'était un extrait de Double séparation, publié aux éditions du Contentieux. Cette lecture était celle d'une partie, une toute petite partie de l'œuvre de Patrice Maltaverne, poète, éditeur au Citron Gare, revuiste à l'enseigne de Traction Brabant. Voilà, on écoute un peu de musique et on retrouve ensuite la chronique mensuelle de Claude Versé.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Stan Getz, The Girl from Ipanema. Voilà, un peu de bossa ne fait de mal à personne, n'est-ce pas? Comme promis, Claude Verset pour son coup de cœur du mois.
Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Trop souvent, on confine l'idée de poésie à des domaines qui lui seraient spécifiques. Bon, vous le connaissez, hein, la nature, l'amour, la mort, l'enfance. Il n'y a pas lieu de les abandonner, bien sûr. Mais aujourd'hui, je mettrai en avant un livre de poésie qui, d'une certaine façon, agrandit le domaine. Témoin de Sophie G. Lucas aux éditions La Contre-Allée, qu'on ne confondra pas avec la revue Contre-Allée, Contre-Allée au pluriel dans ce cas, revue co-dirigée par de Marambert et Romain Fustier, et où il se trouve que Sophie Lucas a naguère publié deux plaquettes. Mais revenons à Témoin, aux éditions La Contre-Allée, donc, dont je me réjouis de la parution, d'autant plus que la dernière fois où je signalais un ouvrage de Sophie G. Lucas, c'était pour la saisir dans le désarroi d'une panne d'écriture avec Carnet d'Aubord, proposé par les éditions Potentilles. Et peut-être ce Carnet d'Aubord marque-t-il, au fond, l'épuisement de la veine autobiographique que la poète cultive depuis Où la Géorgie ? C'était son premier livre, publié dans notre collection Polder, et qu'allait bientôt confirmer Nègre Blanche, prix de la ville d'Angers, publié au Des Bleus. Par rapport à cette veine autobiographique, la dédicace de l'ouvrage qui nous occupe aujourd'hui, « À nos mères, à nos pères », pourrait bien sonner comme une prise de distance, encore que ce sont bien des pères et des mères, tour à tour indignes et humiliés, violents et pitoyables, qui sont les acteurs des drames quotidiens ici évoqués. Leurs témoins s'inscrit dans une veine sociale et documentaire peu représentée dans la poésie française, même si je le rapprocherai volontiers de ce livre du mémorable Croquis d'émolition de Patricia Cotron-Daubigné, livre qui, dans cette même ambition de témoigner d'une parole d'ordinaire jamais écoutée, Croquis d'émolition, rendant compte de la fermeture de l'usine SKF à Parthenay en Vendée. Mais c'est dans la poésie américaine que Sophie G. Lucas va se tourner, et la lecture de Testimonies de Charles Reznikoff qui sera déclencheur. Et pour réaliser son projet, l'auteur va suivre pendant plusieurs mois les procès en correctionnel au tribunal de grande instance de Nantes pour, je cite, « essayer d'approcher ce qui se cache derrière les violences, les faits divers ». De cette matière orale brute, parfois brutale, où s'échangent invectives et interjections, elle tisse à plusieurs voix, voix des protagonistes, accusés, victimes, magistrats, mêlés à la voix de la narratrice, des textes remarquables, des proses vigoureuses et rigoureuses qui brisent le cœur. Et ce, dès la première page, et je ne vois pas de raison d'aller chercher plus loin mon exemple, je vous lis donc cette première page qui s'intitule « Je parle avec mes nerfs ». Je vais te tuer. Je vais te crever. C'est depuis que je suis avec elle. Il a déjà été condamné. les mêmes faits contre sa compagne. Elle était enceinte de leur enfant. Ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble. Il a recommencé. Il dit, c'est elle. Elle s'est fait passer pour une inconnue sur un site. Elle l'a piégé. Alors je me suis énervé. Elle n'aurait pas dû faire ça. C'est pas bien. Il frappe les murs, les portes, les volets, avec ses poings, avec un marteau. Il se défoule sur les objets, la télévision, et il lui donne des coups de poing. Il s'acharne. Je m'énerve vite. Je l'aime. Mais je la tape. J'ai jamais pensé vouloir la tuer. Je parle avec mes nerfs. Il y a l'alcool, le cannabis, condamné 8 fois depuis 3 ans. En attendant, il vit chez son père. Il est peintre en bâtiment, intérimaire. Je suis toujours amoureuse de lui, mais je le reprendrai pas tant qu'il changera pas. Je veux rien pour les violences physiques. Je demande juste qu'il rembourse la télé. Ce poème en prose ouvre, je vous le rappelle, Témoin de Sophie G. Lucas, publié aux éditions La Contre-Allée. Et je vous laisse découvrir, lectrices et lecteurs, auditrices et auditeurs, l'ensemble d'un ouvrage qui, moi j'en suis certain, ne manquera pas de vous interpeller et de vous émouvoir. À bientôt.
Voilà un livre à lire absolument toujours, Ces choix judicieux de Claude Verset. On va poursuivre avec deux livres que nous présente Cécile Guivarche, animatrice de Terre à Ciel et poétesse elle aussi de grand talent.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc je voulais vous parler de deux livres parus aux éditions Faifioc. Donc cette maison d'édition a 2 ans d'existence, mais elle a déjà publié de très beaux textes. Et donc là, je voulais vous parler d'un texte de Dominique Morisi qui s'appelle « La lumière imaginée », qui est paru donc en 2016. Dans ce texte, tout se passe à l'intérieur. C'est une prose, une langue, c'est une langue de l'ensemble, comme une famille. C'est toujours la nuit que les morts reviennent et parlent. L'écriture est profonde, comme ce profond battement de mon cœur. On sent, dès le début de La lumière imaginée, un rapport à l'écriture pour faire renaître, revivre les êtres et ceux qui sont nos pères, nos mères, ceux qui nous nourrissent. Seule la poésie permet cela, répète régulièrement Dominique Morisi. Nous sommes dans un songe éveillé, dans des nuits tourmentées, telles des cauchemars d'enfance. Nous sommes dans un rythme d'écriture avec des mots qui s'enroulent, se déroulent, tantôt comme un balbutiement, tantôt prêts à crier, dans un rythme qui ne retombe jamais au cours du livre. Les mots vont et reviennent, les nuits suivent le même mouvement et entraînent avec elles ceux qui sont morts. Écriture intérieure, écriture qui s'envole, orale, à haute voix, le test prend voix et devient chant. La nuit, un père invisible, une mère contrariée, une tempête dans la maison et des morts qui parlent. Seule la fièvre et la poésie provoquent des visions. Seul l'amour et la mémoire, répète souvent Dominique Morisi. Et l'écriture, les mots écrits, tapés à la machine. Alors pourquoi ce titre, La lumière imaginée, si ce livre parle de nuit? La lumière, ces ailes blanches qui dansent au plafond, ces êtres qui reviennent. Mais qui sont-ils? Pourquoi parlent-ils? Les morts parlent-ils? La narratrice appelle « Est-ce moi ?» dit « Est-ce toi ?» On sent les vies écorchées, les nuits sont à la fois refuge et insomnie. Le texte va et vient, tourne autour pour avancer plus loin. On ne sait pas vraiment autour de quoi on tourne, mais on devine un père invisible, un père de sang ou bien un père qui guide la main vers l'écriture. Quelques petites phrases. « C'est pas de toi qui parle, c'est la voix de ta langue. » « Je vois, je sens. » J'imagine et j'écris ensemble. Dedans, c'est la lumière qui écrit. Donc, écrire avec, entendre ses voix, délier la langue ensemble avec les voix d'Oden, Auslander, Blake, Bolaño, Celan, Kazantzaski, Pizarnik, les entendre la nuit, les garder vivants, vivante et la langue, ce texte est magnifique. C'est un vrai coup de cœur. Il y a eu un autre texte de Véronique Gentil, qui s'appelle Va, donc paru aussi en 2016. va, donc du verbe aller à l'impératif, va, c'est un ordre. A-t-on le choix ? A-t-on le choix d'aller dans la vie et d'écouter l'approche de la nuit, se regarder tomber ? Dans « Va », Véronique Gentil évoque le temps et la mémoire. Elle parle de ses plus petits restes de vie, de cette mémoire qui s'amenuise et donne encore la possibilité d'être. L'écriture de Véronique Gentil est délicate. Elle suggère, elle alterne les formes, traite le sujet avec empathie et à la première personne. On se souvient des origines, de l'enfance, de ceux qu'on a aimés, des petits détails, mais on oublie les mots et les noms. Un petit passage, je suis perdue dans ma propre maison, dans mon propre jardin, et je me tourmente pour un souvenir qui n'a pas abouti. Donc ressentir, on ressent une certaine tension dans ce livre, une appréhension de ce qui vient, la peur de mourir, ne pas être juste dans la contemplation, mais dans la quête du ressentir, dans cette allée vers la mort, la nôtre ou celle d'un proche. Elle dit, tandis que tout tend et cherche à vivre, moi, je vais mourir et j'ai peur. Aller sans cesse vers la fin, et c'est ainsi que cette chute est continue, et c'est parce qu'elle est continue que le vide ne me tue pas. Dans Va, Véronique Gentil rappelle qu'un homme, c'est si peu. Au début du livre, il y a une photo de l'auteur qui montre un chemin sur lequel il convient d'aller. Un chemin dont on ne distingue pas le bout, au bout duquel il faut pourtant continuer de vivre. Voilà donc pour ces deux parutions aux éditions Five Fleurs en 2016. Je vous dis à très bientôt, au revoir.
Je vous l'avais promis en début d'émission, je suis allé voler, emprunter, on va dire, quelques poèmes sur le site de Cécile Terre à Ciel, un site vraiment auquel je vous conseille d'aller faire un tour. Ce sont des poèmes de Josiane de Jésus Berger, une poète que j'ai connue il y a quelques années à La Rochelle et qui a fait son chemin. Elle a publié de nombreux ouvrages dans plusieurs maisons d'édition, La Rumeur des Âges, Vagamundo. Et je vous propose de vous lire quelques poèmes de Josiane à présent. Le premier extrait de Alipio, publié aux éditions Vagamundo en 2016, un texte tout récent donc. On dit que le printemps est en fleurs, parce que les coucous ont chanté tôt cette année. La terre prépare sa noce. Attendre à tes côtés que la terre retrouve son rire de jeune fille. Saoudade, les loups hurlent derrière la montagne. Laisse-moi, père, te soustraire à la horde. Je suis ton pays. Je souffle sur les ombres qui te cernent. Je suis toi. Je cours pieds nus dans le rio. Le Tamega m'emporte, granit de tes rives. Je suis le chant des lavandières. Je porte ta parole. Puis ces deux poèmes extraits de « Comme une confession » de Pierre El-Jazahir, publié aux éditions « La rumeur des âges » en 2003. Les oiseaux sont en fleurs. Et pourquoi pas ta terre, Algérie ? Un troupeau traverse la route. Je te salue, berger de l'Atlas ou des Pyrénées. La même simplicité dans ton pas de paysan, la même certitude du sol. Puis ce poème qui est dédié à Mohamed Dib. Ma maison, mon pain de gloire, et le sein meurtri de ma terre sous les cendres jusqu'aux portes de ta prison, j'ai pitié de nous. J'ai pitié de nous comme on a pitié de son frère, quand les couteaux tuent la parole, quand les mendiants désertent les cours avant que la nuit ne tombe, comme une confession de pierre sur les cris du poète assassiné. Et puis ces deux poèmes, extraits d'un livre intitulé « Le temps suspensif », publié aux éditions Encre Vive en 1999. Sur le pupitre, la trace du plumier, l'odeur de l'encre, le poêle ronfle dans la salle, un relent de soupe enveloppe la classe, on a tiré les rideaux, l'enfant écoute. Les enfants ne mentent jamais, et brode des histoires. Sans oublier la politesse, surtout la politesse. Remonte tes chaussettes, accroche ton cartable. Le goûter, c'est à 4 heures. C'est sans bruit que les cahiers se referment. Voilà, ce sont quelques poèmes seulement de Josiane de Jésus-Berger. Ils vous donneront envie, j'en suis certain, d'aller piocher d'autres pépites dans son œuvre. Voilà, on va bientôt se quitter. Je dis bientôt car je vais céder la parole à Patrick Jonquel pour la fin de cette émission. Patrick Jonquel qui a lui aussi dans sa besace quelques conseils de lecture à vous donner. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de journée à notre écoute si possible. À très bientôt dans 15 jours pour une nouvelle édition de La Route Inconnue.
Eh bien bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un livre d'Alain Boudet, l'infatigable animateur du site La Toile de Lin. Alain Boudet, donc, qui vient de publier chez Soc et Foc un très très beau livre illustré par Marion Broca et le titre « Dépaysé ». Un nouveau recueil d'Alain Boudet, c'est de la joie en perspective. On ouvre avec « Gourmandise » et les images de Marion Broca accueillent le lecteur avec légèreté, douceur et sérénité. En écho à ses poèmes répartis en 4 parties. Alain Boudet est un flâneur, à l'affût des petits bonheurs du jour. Il les contemple avec un sourire et les écrit. Ça paraît si simple qu'on en oublie le travail d'écriture. De l'idée au poème, du temps et de l'énergie, de la méditation, des essais, jusqu'à ce que le poème fuse, étonne et réjouisse. L'écriture, dit-il, renouvelle l'être et le monde alentour. Toute cette joie de vivre reste attentive aux douleurs de vivre, qu'elles soient proches ou lointaines. Le poète n'a pas que des cailloux lisses en poche pour jalonner son chemin de petit poussé rêveur dont l'auberge est à la grande ours. Il a aussi des gravats, ceux d'Alep en ce qui concerne ce livre. Un poème sur une ville meurtrie ne la reconstruira pas, certes, mais il témoigne d'une solidarité, d'une prise en compte. On vit avec ses échardes, qu'on le veuille ou non. Un poème, ça compte bien quelque part, sinon, et depuis le temps que les poèmes nous accompagnent, ils se seraient évaporés. Alors un premier poème justement sur Siri Cyprès. Un homme court dans les rues d'une ville. La vie tressaute dans l'élan de son cœur. Clic, un téléphone portable, moisson de clichés, et devant nous, c'est le monde qui tremble. Là, le soleil en excès, la buée des chansons portées par la colère et le désir de vivre. Une lumière blanche, comme le lait d'un espoir, monte et s'installe, avivant un peu plus la tectonique des cœurs. Quelque part, il y a celui qui tente d'oublier, mais dans ses poches, les gravats sont nombreux. Un autre extrait d'une autre partie qui s'intitule « Nous ». Je ne sais pas d'où je vous parle, ni même si c'est moi qui parle. Au hasard des silences gagnés sur l'embellie d'un paysage. J'écris. Pour tout ce qui s'efface, pour le vent, la nuit, le sourire, pour la pluie, la joie, le chagrin, pour l'écueil à franchir demain, j'écris. Et ce qui passe dans les mots me renouvelle. Je vis dans le creuset du poème. J'en éprouve l'inquiétude, le lent cheminement, les mots qui tâtonnent quelque part entre le ciel et l'épi, le vent et le sable, les mots qui roulent dans la gorge des lieux où je passe, les mots surgis dans la forge des yeux où je me perds. Et soudain, il est là, tout entier, qui m'étonne et me comble dans l'instant. dernier poème tiré d'une petite suite bleue, une autre partie de ce livre. Il peut bien peu, le temps qui passe, nous avons du bleu. Il peut neiger, il peut faillir, affabuler, s'affoler, s'affaiblir, s'affaler et falsifier le vent des rêves. Nous avons du bleu, nous avons du bleu dans nos poches. Et donc pour mettre un peu de bleu dans vos propres poches, une seule adresse, Soc et Foc, Alain Boudet, dépaysé. Merci, à bientôt. Thank you.